Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous entrons dans la deuxième période demandée par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort pour la consécration à la Très Sainte Vierge. Il s'agit de se connaître soi-même. C'est important parce que la consécration nous met dans les mains de la Sainte Vierge. Et il est important de voir pourquoi et sur quoi cela repose. Ce n'est pas des inventions humaines, ce n'est pas des sentiments, même si les sentiments sont souvent valables. Cela repose sur des réalités très vraies. Cela repose sur deux réalités, puisqu'il s'agit d'un rapport entre Dieu et nous, entre la Sainte Vierge et nous. Qui est Dieu et qui sommes-nous? Qui est Dieu, nous le verrons après. Qui sommes-nous? Tout le bien qui est en l'homme vient de Dieu. Tout ce qui vient de l'homme seul, c'est le mal. C'est un résumé de l'enseignement sur la grâce donné par le Concile d'Orange contre les Pélagiens, une hérésie de Pélage. Qu'est-ce que l'homme? Tout le bien qui est en l'homme, et Dieu sait s'il y en a. La question n'est pas de dire que l'homme n'est rien, mais de constater ce que Dieu a fait dans l'homme, et de voir que cela vient de Dieu, et surtout de voir où cela doit mener. Que Dieu a-t-il voulu en donnant à l'homme tant de richesses, de capacités? Et il faut constater, hélas, que l'homme qui doit collaborer avec Dieu, lorsqu'il sort de la main de Dieu, ne peut produire que le mal. Vous ne trouverez pas ces phrases que je viens de vous citer directement dans l'enseignement du Concile d'Orange. C'est un résumé. Mais voilà pourquoi ce résumé dit tout ce qui vient de l'homme seul, et non pas tout ce qui vient de l'homme tout court. Tout ce qui vient de l'homme seul, c'est le mal. Parce que ce qui vient de l'homme en union avec Dieu, c'est évidemment le bien que Dieu a voulu mettre en lui et qu'il veut faire fructifier en lui. Nous verrons trois parties dans ce sermon. Premièrement, l'homme est une créature. Deuxièmement, par sa nature, il est déjà très élevé. Et troisièmement, et surtout, l'homme est destiné à être l'ami de Dieu et pas une amitié quelconque, puisque comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc une amitié qui nous fait directement entrer dans l'amitié du Père et du Fils entre eux. Tout d'abord, l'homme est une créature. Et parce qu'il est une créature, tout son être dépend de Dieu. La question n'est pas de savoir si nous dépendons ou non. La question est de savoir si nous sommes fidèles à cette dépendance ou non. Monseigneur Lefebvre insistait beaucoup sur ces vérités, qui sont des vérités de base. Dieu est le Créateur, il ne dépend de rien ni de personne, il n'a rien à demander à qui que ce soit, il n'a aucun compte à rendre, c'est lui qui possède la perfection, et c'est même plus qu'il la possède, il est la perfection, parce qu'il ne la reçoit de personne, il l'a en soi, par nature, tandis que l'homme a des perfections, mais il les reçoit de Dieu, il les reçoit par la création, et il les reçoit ensuite, tout au long de sa vie, par l'action de Dieu, la providence divine. C'est important de voir cela, parce que c'est la source de l'humilité. L'humilité ne consiste pas à croire que l'homme n'est rien, parce que ce n'est pas vrai. La Sainte Vierge, dans le Magnificat, dit que Dieu a fait pour elle de grandes choses. Il a regardé la bassesse de sa servante, tous les âges me diront bienheureuse. Il ne dit pas je ne suis rien, elle ne dit pas la Sainte Vierge, je ne suis rien, je suis nul, il n'y a que Dieu qui soit grand. Non, elle dit, Dieu a fait pour moi de grandes choses, tous les âges me diront bienheureuse. Tout chrétien, en union avec la Sainte Vierge, comme la Sainte Vierge, parce que aujourd'hui nous fêtons l'Immaculée Conception, et Dieu annonce qu'il mettra une inimitié entre le démon et la femme, entre sa descendance et la descendance du démon. Nous sommes de la descendance de Marie, nous sommes les fils de Marie. Nous y reviendrons. Donc Dieu a fait pour nous des grandes choses. Et l'humilité ne consiste pas à nier ses biens. Elle consiste encore moins à vouloir nous écraser sous prétexte que nous sommes nuls et pas dignes des noms de Dieu. L'humilité n'est absolument pas ce que pensent beaucoup de gens, un écrasement artificiel, parce que Dieu est trop grand pour que nous puissions considérer avec vérité les dons qu'il nous a faits. Non, l'humilité consiste à dire, comme la Sainte Vierge, Dieu a fait pour moi de grandes choses, c'est Dieu qui les a faites, elles sont grandes, et parce qu'elles sont grandes, elles m'appellent à des grands fruits. Là est la véritable humilité, qui considère l'exigence qui découle de ces grands dons de Dieu. Alors Dieu nous a donné notre nature, c'est pas nous qui nous la donnons. Vous allez me dire, c'est les parents. Oui, mais les parents, de qui l'ont-ils reçu? Dieu nous donne l'existence. C'est pas rien d'exister. Et vous trouvez normal, parce que nous sommes nés, voyez. Alors une fois que la cigogne a apporté le petit enfant dans son bec et qu'elle l'a mis dans le nid, que sais-je, ou dans le berceau, alors l'homme vivrait tout seul, hein. Le bon Dieu aurait créé, et puis après ça, il se retire dans son ciel. C'est pas vrai. Le bon Dieu continue à donner dans l'existence, à maintenir dans l'existence. Et si tout de suite j'existe, c'est que Dieu me donne d'exister. S'il cessait un instant de penser à l'un d'entre nous, celui-ci disparaîtrait dans le néant. Et Dieu, par son action, par sa providence, continue à nourrir nos actions, c'est-à-dire que il ne nous a pas donné simplement une nature qui est faite pour agir, c'est-à-dire pour le connaître et l'aimer, essentiellement ça. Il continue à diriger notre nature, à la pousser au bien, à la nourrir, pas seulement de la grâce, mais de toute sa action providentielle. La conclusion de cette première partie, que nous sommes des créatures, c'est que nous dépendons de Dieu, mais Dieu nourrit notre liberté. C'est par notre dépendance que Dieu nourrit la liberté. Quelqu'un qui n'est pas dépendant de Dieu n'est pas libre. Pourquoi il n'est pas libre? D'abord parce qu'il n'a pas de but. On n'est pas libre quand on n'a pas de but. Parce qu'il ne cherche pas le bien. Parce qu'il est esclave de ses passions. Parce qu'il n'a rien à choisir. Quelqu'un qui ne dépend pas de Dieu. Prenez l'exemple du mariage. D'abord, celui qui ne dépend pas de Dieu choisira n'importe qui. Ça ne tiendra pas. Puis celui qui vraiment ne dépend vraiment pas de Dieu, alors se mariera même pas. Ce sera le concubinage. Et celui qui dépend encore moins de Dieu, c'est même pas un concubinage, qui ressemble de loin vaguement à un mariage. Non, c'est des aventures passagères continuelles. Voilà. Celui qui dépend de Dieu choisit une épouse digne de Dieu, il lui est uni pour la vie, et ils construisent une famille. Bien sûr, il reste là la liberté des enfants qui peut s'opposer au bien. Enfin, quand même, d'habitude, lorsque la famille est profondément chrétienne, cela incite quand même les enfants à être eux-mêmes profondément chrétiens. Deuxièmement, ce que Dieu a fait dans notre nature, il est important de parler de la nature. Monseigneur Lefèvre nous en parlait. Monseigneur Lefèvre n'allait pas directement au trésor de la grâce. Essentiellement, il parlait de la grâce, mais pas seulement des trésors de la grâce. Parce que justement, il y a un fondement, et aujourd'hui, c'est le fondement naturel qui est détruit. Aujourd'hui, quand vous regardez beaucoup de braves gens modernistes, la foi est atteinte non pas parce qu'ils n'ont pas foi en Dieu, mais parce que leur nature est atteinte. Leur nature est presque démolie. La foi, c'est comme une grande statue qui est sur un piédestal. Si le piédestal s'écroule, la statue se casse. Alors que sommes-nous ? D'abord, nous avons des facultés corporelles. Je parle l'essentiel, enfin, nous les avons. Et ces facultés corporelles nous donnent de faire des choses extraordinaires. Un sculpteur qui fait une statue, nous avons une capacité d'agir dans le monde, et Dieu nous a donné une mission dans le monde, il l'a donné à Adam et Ève, de soumettre la terre. Mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est notre intelligence et notre volonté. L'intelligence, lire dedans, intus legere, lire dedans. L'intelligence est une faculté qui nous permet de lire. De lire dans quoi ? De lire dans le livre de la nature. Oui, mais qui a écrit le livre de la nature ? C'est Dieu dans sa sagesse. Et donc l'intelligence nous permet de lire dans la sagesse de Dieu. Quand on voit des grands philosophes comme Aristote, qui n'avait pas la foi, qui rien qu'en observant des animaux, puis après ça des hommes, arrive à la conclusion qu'il existe une pensée divine qui existe par soi, qui dirige tout, qui est absolument simple et parfaite, simplement parce qu'il observe ce que cette pensée a fait. Et quand on voit que l'homme aujourd'hui n'est même plus capable de ça, parce que la révolution est passée par là, parce que la révolution, faites-y bien attention mes bien chers frères, a détruit en premier l'intelligence de l'homme. Le 18e siècle, qui est un siècle de prétendue lumière, est tout sauf un siècle de lumière. Quand vous avez Descartes qui dit « je pense, donc je suis », alors dans quoi tu lis Descartes ? Tu lis en toi ? Ben écoute, il n'y a rien en toi. Regarde un petit peu ce que Dieu a fait, plutôt que de te regarder le nombril. Quand vous avez des faux philosophes comme Voltaire, qui sont des menteurs de philosophes, c'est tout ça des philosophes, sont des destructeurs de la pensée. Et on a pris ça pour des lumières. Notre intelligence nous fait lire dans la sagesse de Dieu. Elle nous fait voir ce que Dieu a fait. Elle nous fait comprendre cette sagesse de Dieu. Et par conséquent, elle nous met en accord. Bien entendu, c'est la volonté. Il n'y a pas plus fou que celui qui voit, qui ne fait pas ce qu'il a vu, qui n'agit pas conformément à ce qu'il a vu. Aujourd'hui, qu'avons-nous ? Nous avons des hommes qui sont dans le sentiment. La télé, Internet. Je me demande, mes bien chers frères, si je vais continuer à avoir un abonnement à Internet. Si je ne l'ai, ce n'est que pour vous. Que pour vous. À cause de ces sermons, à cause du chapelet tous les jours. Mais sinon, vous savez, au Moulin du Pain, je n'avais pas d'abonnement à Internet. Et je vous garantis que s'il n'y avait pas les sermons et le chapelet tous les jours, je n'aurais pas d'abonnement à Internet. Pas parce qu'il y a des cochonneries, parce que cela est un envahissement de la pensée. On ne pense plus, on ne réfléchit plus. Aujourd'hui, cette prédominance des images a complètement obscurci l'intelligence de l'homme qui n'est plus capable de lire dans les pensées de Dieu. L'homme n'analyse plus la providence, il ne comprend plus les signes de la providence. Il ne sait plus diriger une famille. Il ne sait plus garder son calme au milieu des émotions. Tout le monde s'émeut, et puis personne ne garde son calme. Troisième partie de ce sermon. Nous sommes destinés à être les amis de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu en créant l'homme. Il a voulu en faire son ami. C'est pourquoi il n'y a aucun délai entre la création de l'homme et la vie de la grâce. À Adam, Dieu lui donne en même temps la vie naturelle et la vie de la grâce. Il aurait pu faire l'un après l'autre, mais il n'a pas voulu, pour montrer que lorsqu'il crée l'homme, son but est immédiatement de le mettre en possession de Dieu. Une épître dit cela. Nous avons été créés pour vivre dans la sainte communauté, en communauté avec la Sainte Trinité. C'est l'Écriture Sainte qui le dit. Vive dans la sainte communion de Dieu. Vive dans la sainte amitié de Dieu. C'est-à-dire pénétrer dans l'amour de Dieu comme le Fils pénètre dans l'amour de son Père. Enfin, il ne pénètre pas puisqu'il est l'amour même de son Père. Mais nous entrons dans cet amour de la Sainte Trinité. C'est une union à la Trinité, à ce à quoi nous sommes destinés. Et par conséquent, nous sommes fils de Dieu, mais faites bien attention. Des fils, oui, bien sûr, comme le Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. C'est-à-dire, nous entrons dans l'éternité de Dieu. Et fils, mais ami. La charité est une amitié. Et par conséquent, nous sommes destinés à être fils de Marie. Parce que Marie est la mère de Dieu, et puis ça, nous y reviendrons, mais je vous en ai déjà dit suffisamment. Quiconque est fils de Dieu est fils de Marie. Quiconque aime Dieu aime Marie. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que cette union à Dieu fait naître en nous une vie spirituelle, intérieure, personnelle. Une vie spirituelle parce que nous vivons de l'esprit, un vieillard qui ne peut plus rien, mais qui pense à son éternité, qui pense à Dieu, qui dit son chapelet et qui vit avec la Sainte Vierge, a beaucoup plus de vie qu'un jeune de 25 ans qui ne pense pas à Dieu. Oui, parce qu'il a une vie intérieure, spirituelle. Et cette vie spirituelle est intérieure. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de vie extérieure, mais c'est la vie intérieure qui donne son esprit à la vie extérieure. Une vie extérieure sans vie intérieure, c'est rien. Et pour nous, nous savons que cette restauration du lien entre notre vie extérieure et notre vie intérieure, ce lien qui avait été rompu par le péché, la restauration s'est faite par notre Seigneur sur la croix. Mais ça, nous y reviendrons. Et si c'est une vie intérieure, spirituelle, c'est nécessairement une vie personnelle. Parce que connaître et aimer, c'est une œuvre de chacun de nous, et quelqu'un ne peut pas connaître à notre place, et quelqu'un ne peut pas aimer à notre place. Par conséquent, la connaissance de Dieu est une connaissance personnelle. La foi nous fait connaître Dieu. Vous allez me dire, elle nous fait pas voir Dieu. Enfin, elle nous fait quand même voir beaucoup de choses. Elle nous fait savoir que Dieu est Père, qu'il est Fils, qu'il est Saint-Esprit. Elle nous fait savoir qu'il est éternel. Elle nous fait savoir qu'il est le Créateur. La foi nous fait entrer dans la divinité de Jésus-Christ. Elle nous fait savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que le Verbe incarné est vraiment le Verbe. C'est extraordinaire, ça. Bien sûr, les mots nous manquent pour exprimer ces réalités très élevées. Et pourtant, rien que cela, c'est déjà extraordinaire. Enfin, vous imaginez un papou qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui découvre la richesse de la Trinité, qui découvre que cette richesse est à lui, qui découvre qu'il est aimé du Père éternel, qui découvre qu'il a été sauvé par le Fils de Dieu, qui découvre que la Mère de Dieu est sa mère. Il est époustouflé, il est dans l'admiration. Et plaise à Dieu que nous fussions quelquefois des papous, et que nous ne soyons pas blasés. Monseigneur Lefebvre nous disait, les Européens sont souvent blasés. Il fallait voir les convertis en Afrique qui étaient dans l'admiration de ce qu'ils découvraient. Une vie intérieure, une vie personnelle. Et si je vous conseille la consécration à la Très Sainte Vierge, mes bien chers frères, c'est parce que justement, c'est un acte personnel, directement, de vous, avec Dieu. Rappelez-vous que les vertus théologales ont Dieu pour objet. Théologales, elles portent sur Dieu, elles portent pas sur les dons de Dieu. Par la foi, vous ne connaissez pas les dons de Dieu, vous connaissez Dieu. Par la charité, vous ne vivez pas des dons de Dieu, vous vivez de Dieu lui-même. Par l'espérance, vous n'attendez pas les dons de Dieu, vous savez que vous allez rejoindre Dieu à condition de lui être fidèle, Dieu lui-même. Alors bien sûr, il y a un danger à cela, qui est d'abuser de cette grande noblesse de l'homme. Aujourd'hui, tout le monde en abuse. Aujourd'hui, tout le monde se croit capable de juger de tout, sous prétexte que le chrétien a des certitudes, qu'il possède la vérité, alors n'importe quelle personne à qui passe une idée par la tête se croit autorisée à juger n'importe qui et n'importe quoi. Mais c'est pas parce qu'il y a un abus de la liberté de l'homme qu'il faut nier cette liberté. Ce n'est pas parce qu'il y a un abus de la vie intérieure de l'homme qu'il faut nier cette vie intérieure. Ce n'est pas parce qu'on peut abuser de la foi qu'il faut nier la foi. Ce n'est pas parce que les protestants ont abusé de la foi qu'il faut nier la foi. Au contraire, les épreuves actuelles dans lesquelles nous vivons ont pour but de ramener ceux qui le voudront bien à une très profonde vie intérieure, à condition qu'ils soient profondément unis à Dieu, qu'ils vivent profondément dans l'humilité, qu'ils s'accrochent fermement à l'aide de la Sainte Vierge, qu'ils s'accrochent à la Sainte Vierge, qu'ils prennent la main de la Sainte Vierge, fortement. Et alors à ce moment-là, on découvrira que Dieu fait en nous de grandes choses. Les épreuves actuelles ne vont pas se résoudre en niant la liberté intérieure de l'homme, elles vont se résoudre, les épreuves actuelles, en ramenant la liberté intérieure de l'homme à la vérité de Dieu. Et il y en a, hélas, beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont se perdre, même chez les tradis, qui vont se croire, parce qu'ils sont dépositaires d'un trésor, ils vont croire que ce trésor leur permet tout. Mais c'est pas parce qu'il y aura tant et tant de chutes qu'il faut nier la réalité de ce trésor. Et si je vous prêche la consécration à la Sainte Vierge, c'est pour que vous preniez soin de ce trésor. Et le jour de Noël, à la crèche, vous redécouvrirez ce trésor de Dieu. Est-ce que Dieu attend de nous? Et la naissance de Dieu à la crèche sera le début d'une nouvelle année. Une nouvelle année que vous allez vivre avec lui, sous sa dépendance, pour rejoindre le Père, pour aimer le Père, avec l'aide de la Sainte Vierge. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.